Nous arrivons au quatrième entretien, qui est l'entretien, disons, central. Comme vous le savez, hein, on a eu trois entretiens déjà, il y en aura encore trois autres. Et comme dans une menorah, un chandelier juif, c'est le central, celui du centre qui porte le reste. Comme dans le Notre Père, c'est la demande du pain. Qui est à part, puisqu'elle commence par un substantif, alors que les autres commencent par un verbe, et c'est voilà, la quatrième demande. Donc, quatrième entretien sur le titre, et on pourrait dire la somme, avec le phénomène érotique quand même, enfin, la grande œuvre de phénoménologie, reprenant justement. Et dépassant peut-être la question de l'être, donc ce livre qui s'intitule « Étant donné », un livre très important hein, dans la philosophie. Et je voudrais repartir de choses qui ont déjà été dites ici, à propos de ce retournement de la lumière. Est-ce que justement... On pourrait dire qu'étant donné, on avait dit, il y a ce domaine où c'est l'ego transcendantal, le jeu transcendantal qui parle, et donc il parle, la lumière n'est jamais tournée vers lui. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, dans votre travail par la suite, justement l'effort de penser que dans l'objectivité même, et dans l'acte même d'objectivation, il y a quelque chose qui n'est pas objectivable, c'est-à-dire que les choses, avant d'être des objets, sont des choses, bien sûr, mais qu'elles nous sont données, en gros, qu'elles nous regardent. Le livre d'entretien avec Dan Arbib s'intitule « La rigueur des choses », et vous dites dedans, ce n'est pas nous qui imposons notre rigueur aux choses, hein, comme l'empire du management aujourd'hui, hein, de la rationalisation, mais ce sont les choses qui viennent d'une certaine façon au-devant de nous et qui nous imposent une rigueur. Est-ce que finalement, penser au-delà de l'être en direction du don, de la donation, c'est pas justement penser le fait que les choses nous regardent avant que nous ne les regardions, nous appelle de telle sorte qu'on est toujours en position de réponse, jette sur nous une lumière avant que nous les explorions avec nos propres clartés.
Oui, on peut dire étant donné, se termine par là où la philosophie classique commence, c'est-à-dire par l'équivalent du jeu de l'ego. Il intervient tout, dans le cinquième livre, à la fin, sous la figure de ce que j'appelle la donnée. Et la donnée, c'est ce qui se définit par rapport à ce qui se donne. Alors qu'en métaphysique classique, c'est toujours ce qui se donne qui se définit finalement comme objet déterminé par ce qui arrive le premier, à savoir le jeu. Donc là, c'est exactement l'inverse. Alors la vraie difficulté n'est pas tellement de montrer comment le jeu est en fait un... Vous savez, on dit... Léminard disait, moi je ne dis pas je le mets à l'accusatif. Moi je le mettrais au datif. C'est mi qui est le premier sens de ego. Parce que l'ego, c'est un nominatif. Et il n'est pas du tout certain que la subjectivité, l'ipséité, l'ego soit d'abord quelqu'un qui dit je. Celui qui dit l'ego en première personne et au nominatif, c'est Dieu. Là, Dieu, il dit oui, il dit je. Mais bibliquement, par exemple, l'homme est au vocatif. Il dit « me voilà ». Il est appelé, il répond « me voilà ». Et le vocatif peut se développer en datif. Alors, l'accusatif, c'est pour l'injonction éthique. Et on peut dire que dans la société technique, l'homme est toujours à l'ablatif, complément de moyen. Bon, enfin, la vraie difficulté a été dans ce livre de revenir en deçà de l'objet. Heidegger a dit quelque part que l'étang n'a pas à devenir un objet. Il peut parfaitement être un étang sans être un objet. Mais ça, Heidegger l'a très bien expliqué, c'est ça, des grandes choses qu'il a faites. Mais quelqu'un comme Husserl, par exemple, met toujours, comme d'ailleurs Kant, en équivalence objet et phénomène. Pour lui, c'est indifférent de dire un objet et un phénomène. Ce qui est une grave erreur. Parce que, à proprement parler, nombre de phénomènes, peut-être le plus grand nombre de phénomènes, ne sont jamais des objets. Et les objets, au sens de la technique du terme, sont des phénomènes pauvres. C'est-à-dire des phénomènes qui sont sans mystère. C'est intéressant que l'objet industriel, par exemple, il y a une multitude d'objets qui n'ont qu'une seule forme. Ce qui est donc un niveau très bas, si je puis dire, dans la phénoménalité. Dieu, par exemple, quand il fait des dieux, je veux dire nous, il n'en fait pas deux qui soient pareils. Tandis que nous pouvons démultiplier la même forme, d'ailleurs très simple. Donc, est-ce qu'on peut concevoir le phénomène autrement que comme un objet et peut-être même autrement que comme un étang? C'était ça ma question. Alors pour y arriver, il y a plusieurs voies. Il y a d'abord la voie de ce sont des analyses qui sont très intéressantes. Si vous prenez un phénomène que tout le monde s'accorde à reconnaître comme un phénomène à haut degré de visibilité, qui est un tableau. Un tableau, tous les phénomènes sont visibles, mais celui-là est plus visible que les autres. Dans un musée, on ne regarde pas le mur, on regarde le tableau qui est sur le mur, parce qu'il est fait pour être plus visible que les autres. Donc, prenons ce phénomène à haut degré de visibilité, de phénoménalité. C'est intéressant de voir que, en dehors de tout jugement esthétique, sa visibilité est très difficilement explicable. Évidemment, ce n'est pas sa matérialité qui permet d'expliquer sa visibilité. Sa matérialité, de la toile, de la peinture, etc., on en retrouve partout. Donc, ce n'est pas ça qui fait la différence. Et il n'est pas d'une taille énorme, enfin bon. Donc, la preuve, on peut changer les pigments, on peut changer le support de la toile, on peut le réentoiler, etc. Et ce sera toujours le même tableau. Donc la visibilité ne tient pas ici à la matérialité. Ça ne tient pas non plus à la valeur d'usage du tableau, à sa valeur commerciale, à sa valeur décorative, etc. À quoi ça tient ? Ça tient même pas à la signification du tableau. Tout tableau peut avoir une signification plus ou moins idéologique, identifiable, culturellement, ça veut dire ceci, etc. Le tableau... Donc, pourquoi est-ce qu'un tableau attire les regards? Bon, c'est parce qu'il y a un effet du tableau sur son spectateur. C'est un cas de ce que j'appelle le phénomène saturé, c'est-à-dire le propre d'un tableau, par exemple, c'est que... on ne peut pas le voir en une fois. On revient le voir. Il nous est tous arrivé de revenir voir un tableau qui est dans un musée, qui est précisément celui que nous connaissons le mieux, ce qui est idiot. Puisque c'est celui que nous connaissons le mieux, il n'y a pas de raison de revenir le voir. Il faut aller voir ceux qu'on ne connaît pas. Ben non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On va voir les tableaux qu'on connaît le mieux. Et on peut éventuellement faire des milliers de kilomètres pour aller revoir un tableau. Celui qu'on connaît par cœur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un surcroît de visibilité là. Mais c'est très difficile d'expliquer en termes conceptuels ce surcroît de visibilité. D'ailleurs, Kant, encore une fois, je le disais tout à l'heure, dit que le beau, c'est ce qui plaît universellement sans concept. Alors universellement, on voudrait dire, c'est parce qu'on peut expliquer pourquoi ça plaît. La vérité, c'est qu'on ne peut pas expliquer pourquoi ça plaît, c'est pour ça que ça plaît universellement, de manière contraignante. C'est étrange. Donc, ce visible, par exemple, alors, il y a en français une formule étonnante, vous savez, c'est comme on dit, le peintre qui passe et qui a le nez sur sa toile, puis qui fait quelques pas en retrait pour voir ce que ça donne. C'est magnifique comme formule. Parce que, où on dit quelque chose, là ça donne. Ça donne, c'est-à-dire quelque chose advient, enfin, je dirais la visibilité sort du tableau. Ou quand un moteur donne à fond, ça donne. C'est beaucoup plus que ça fonctionne ou que c'est, ou que ça apparaît. Donc le tableau a son énergie propre, si je puis dire, pour apparaître. En fait, c'est un mouvement de surgissement du visible et qui exerce un attrait, une influence réelle sur le spectateur. La preuve, il revient. La preuve, il passe son temps à causer dessus sans pouvoir expliquer pourquoi c'est beau. C'est quand même assez curieux, la critique littéraire, la critique artistique. La critique artistique, ça consiste à ou bien parler de tout sauf de la beauté du tableau, ça c'est la muséologie contemporaine. On vous dit la dimension du tableau, qui ont été les propriétaires, le petit chien blanc dans le coin qui veut dire que, etc. etc. Bon, des sétises, et on vous dit rien sur pourquoi est-ce qu'on va voir ce tableau plutôt qu'un autre. Alors que c'est vraiment la question. Pourquoi on a choisi ce tableau-là plutôt qu'un autre ? Avec le degré zéro de la réponse qui consiste à dire il n'est pas dans un musée parce qu'il est beau, il est beau parce qu'il est dans un musée. Ça, c'est le degré zéro, le triomphe de la philosophie analytique quand elle se mêle d'esthétique. Et ils sont fiers de ça. C'est incroyable. Quand je pense qu'ils sont fiers de ça, alors que c'est vraiment la réponse la plus bête, la plus risible, platement américaine, grossièrement financière, enfin, grotesque. Et, non mais, excusez-moi, mais je veux dire, c'est quand même incroyable que cette vulgarité et cet aveu d'échec complet de la pensée esthétique soient considérées comme triomphalement importantes. Rien de plus bête que Goodman. Bon, c'est vraiment bête, c'est une bêtise crasse, et ça, la bêtise crasse, je vais me mettre en colère, j'ai bien le droit un petit peu de temps en temps, la bêtise crasse se remarque parce qu'elle est profondément satisfaite d'elle-même. Elle ne voit même pas l'objection. Si vous objectez, il vous dit que vous n'avez pas compris l'argument. Dans le meilleur des cas, il vous dit que vous n'avez pas compris ce qu'il disait. Si on a compris, c'est pourquoi on trouve que c'est bête. Et donc, si vous persistez, ils disent que vous êtes irrationnel. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, le problème de l'œuvre d'art, par exemple, c'est que c'est un phénomène qui ne respecte pas les règles ni de l'objectivation, ni même de l'identité. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'il est, on n'a absolument rien dit de la façon dont il apparaît et fonctionne. Donc, alors ça c'est un angle d'attaque que j'ai utilisé. Il y a aussi un autre angle d'attaque qui était lié, lui, au vocabulaire même de la phénoménologie. Pourquoi est-ce que Heidegger, en disant « es gibt », ce qu'on traduit par « il y a », mais il vaut mieux garder « es gibt », cela donne, ou Husserl, qui parlait de donation, de « gegebenheit » à propos des phénomènes, pourquoi est-ce qu'il... ils avaient recours à ce vocabulaire. Alors, la réponse, elle se trouvait, et à l'époque où je faisais étant donné, je n'avais pas vu ça dans le détail, je l'ai vu après, elle venait à l'origine d'un problème qui se trouvait chez un philosophe antérieur, Meinong. Meinong lui-même, reprenant une difficulté rencontrée par les gens de l'école de Marbourg et quelques autres, qui est le problème suivant. En bonne logique métaphysique, on dit toujours que n'est que ce qui est possible, c'est-à-dire qui n'est pas contradictoire. Donc quand quelque chose est contradictoire, il n'y a pas de concept, donc c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc c'est quelque chose qui n'est pas. Avec l'équivalence entre le pensable et ce qui est, on comprend très bien que ce qui n'est pas pensable n'est pas. Pourtant, évidemment, comme Bolzano l'avait remarqué, les choses impossibles, nous les pensons quand même. La preuve, c'est qu'on peut faire une distinction entre ce qui est contradictoire, ce qui est empiriquement impossible, et ce qui est un non-sens. On peut faire cette distinction, c'est trois manières classiques de définir l'impossible et le néant, ce qui n'est pas concevable. Une montagne d'or, la vertu verte, ça n'a pas de sens, et le cercle carré qui est la contradiction logique. Bon, tout ceci n'est pas possible. Aucun de ces trois-là ne sont possibles. Et pourtant, nous les concevons. La preuve, c'est que nous pouvons les distinguer les différents types de possibilités. Donc, et pourtant, ils ne sont pas. Donc, il faudrait dire qu'il y a des choses qui ne sont pas et qui, pourtant, sont pensables. Il y a des impossibles qui sont pensables. Alors, on ne va pas dire qui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un impossible qui est pourtant pensable? On ne va quand même pas dire qu'il, pour autant, il est, même de manière limite. Donc, on était arrivé à dire cela n'est pas, mais il y en a. Es gibt. D'où la formule de Meinung. Le paradoxe de Meinung, et bien entendu, il y a des régiments de gens qui ont essayé de montrer que c'est un mauvais paradoxe, c'est pas bien, etc. À savoir, cela donne des objets dont il faut dire que ces objets, ça ne se donne pas. Es gibt gegenstände, worüber man kann sagen, es gibt nicht. Il y a des objets qui. Donc, se donner, cela donne, c'est une manière de tenir compte, parce qu'on ne peut pas faire autrement, d'objets qui pourtant ne sont pas. Mais ne sont pourtant pas du néant. Donc une catégorie limite le esgibt. Alors par de multiples relais, ce esgibt est devenu problématique. On s'est interrogé sur ce esgibt et Husserl, de temps en temps, dit, même très souvent, dit que le vécu de conscience, par exemple, ce qui nous arrive de l'expérience, c'est de la gegebenheit, de la donation de la chose. C'est le début de la donation de la chose. Donc il y a des donations avant la constitution complète du phénomène. On dit aussi que constituer un phénomène, c'est lui donner un sens, c'est donner un sens aux data d'expérience. Vous voyez, encore data. On dit les data d'expérience. Les données sensibles, ce sont des sense data. Bon, mais les sense data nous arrivent, donc ils sont donnés, même si on n'y comprend rien. Donc il y a un donné avant de le comprendre, c'est-à-dire de lui donner un sens en retour. Donc les sans data sont donnés sans avoir de sens, et la constitution, terme husserlien, c'est aussi ce qu'il appelle une zingebung, une donation de sens. C'est-à-dire vous avez des data qui sont là, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas ce que ça montre, et la bonne interprétation, c'est trouve le sens de la chose. Est-ce que c'est une ombre dans le couloir? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est la silhouette de quelqu'un de vivant? Bon, il faut trouver le bon sens qui permet d'unifier l'impression, et ça va en faire un phénomène qui a un sens. Bon. Donc, la constitution, c'est une affaire de donation. Sensata d'une part, et en retour, donation de sens. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de donation à ce moment-là? Alors, très souvent, c'est considéré comme une métaphore, une manière de dire, etc. Moi, j'ai décidé de le prendre vraiment au sérieux. Donc, assez longue enquête sur les emplois de donation, etc. Et je me suis dit, est-ce que la donation a un rapport avec ce qu'on expérimente, par ailleurs, sous le nom de don? Alors, parce qu'il y a, en plus, dans un tout autre domaine, donc, j'ai posé la thèse que, en phénoménologie, peut-être que il s'agit non pas d'objectivation, comme dans les sciences et les techniques, il ne s'agit même pas, comme en métaphysique classique, des temps, avec la différence ontologique, pour la compléter comme chez Heidegger, mais du fait que cela donne, de multiples façons d'ailleurs, et qu'il faudrait quand même prendre ça au sérieux. Alors, pour ne pas en faire une métaphore, un deuxième moment, ça a consisté à dire, mais par ailleurs, il y a une thématique du don inventée par les anthropologues, en particulier par Marcel Mauss, et puis il y a tout un développement de discussions sur le don, la logique du don. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre ça et la donation? Alors, quand j'ai commencé à vouloir établir ce rapport, une fois, je suis donné un séminaire comme ça, et Paul Ricoeur était là, il m'a dit, vous savez, vous n'arriverez jamais à conjoindre la question du don et la question de la donation. Pari tenu. Alors, j'espère que j'y suis arrivé. Mais c'était en fait très difficile, parce que le don, dans la logique du don, chez Mauss et les autres, le don, en fait, c'est ce qu'il appelle le don, c'est un échange.
C'est le potlatch.
Ben oui, entre autres, le potlatch, c'est l'échange. C'est l'échange juste ou injuste, l'échange avec accroissement, etc. Et les gens du mouvement, qui s'appelle maintenant le Mauss, mouvement, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin,
Alain Cayet.
Alain Cayet, maintiennent absolument que le don est un échange, symbolique parfois, mais qui a absolument que ce soit un échange, qu'il a un rôle économique. On a tout à fait le droit de parler de l'échange et de donner son rôle économique. C'est un échange gratuit, mais ils pensent que c'est ça un don. Or, moi, j'essaie de montrer que le don, c'est tout à fait différent.
C'est du donnant-donnant pour eux.
Du donnant-donnant. Et c'est, il explique que c'est un rôle social, même si ce n'est pas commercialisé, si je puis dire.
Mais si ce n'est pas ça, si ça n'est plus ça, si ça n'est plus un échange, Derrida dira que le don est impossible.
Oui. Oui, parce que Derrida dit que le don est impossible parce qu'en fait, il y a toujours un échange. Donc, Mauss et les Maussiens disent ben, le don, ce n'est pas mystérieux, c'est un échange. C'est un échange qui n'est pas toujours monétarisé, enfin, c'est un échange qui permet d'expliquer beaucoup de choses. Et puis Derrida dit mais non, c'est toujours un échange, parce que même si vous n'échangez rien, c'est-à-dire que c'est un don purement symbolique, même si, apparemment, vous ne demandez pas de contre-don, il y a toujours le don est toujours payé en retour. Soit parce que on vous donne quelque chose en retour, c'est le cas le plus visible, donc à ce moment-là, ce n'est pas un don, c'est un échange, soit parce que celui qui a reçu le don et qui n'a pas pu le rendre est en situation de dépendance, il est débiteur, il va être
redevable,
il va donc devoir obéir, etc. Et son obéissance sera justement, ou sa reconnaissance seront justement la satisfaction du don, du retour. Ou bien même, il ne répondra rien, il ne donnera rien, il ne reconnaîtra rien, il ne voudra pas admettre qu'il est débiteur. Mais dans ce cas-là, vous aurez une plus haute estime de vous, en disant qu'au moins vous avez été généreux pour rien. Et là, c'est un retour sur investissement qui n'est pas négligeable. Bon. Donc Derrida disait, de toute façon, le don est toujours suivi d'un contre-don, c'est toujours un échange. Donc les conditions de possibilité du don sont les conditions de son impossibilité. Donc il fallait arriver à définir le don sans ça. Et donc j'ai entrepris de définir un don réduit à la donation. Et alors, pour ce faire, dans les analyses du don sur son universelle possibilité, Mauss, ou son universelle impossibilité, Derrida, on est toujours d'accord pour dire qu'il y a un don quand il y a un donateur, un donataire, quelque chose qui est donné. Alors, j'ai montré qu'on peut parfaitement faire un don sans l'un des trois termes. Par exemple, il est bien clair que un don sans donateur est parfaitement possible. C'est l'héritage, c'est main droite, main gauche, etc. Le don sans donataire, sans personne qui le reçoive, c'est parfaitement connu, c'est le don anonyme. Quand vous donnez par l'intermédiaire d'une association, etc., vous donnez à personne. Ou bien l'exemple du don sans donataire, c'est le Christ lui-même qui le dit, c'est-à-dire Donnez à vos ennemis, vous êtes sûr qu'ils ne vous le rendront pas. Ça, c'est un vrai don. Et puis, on peut aussi faire abstraction de ce qui est donné. Et non seulement c'est courant, mais c'est le cas le plus courant. Car quand vous donnez quelque chose, la plupart du temps, vous donnez beaucoup plus que ce que vous donnez. C'est-à-dire, quand vous donnez une pièce à quelqu'un qui en a vraiment besoin, c'est une fortune pour lui, ça lui sauve la mise pour la soirée. Quand vous faites un cadeau à quelqu'un, vous ne lui donnez pas seulement le cadeau, vous lui donnez le fait de le lui avoir donné. Et alors, ça peut atteindre évidemment le cas où le don est juste symbolisé par la matérialité de ce qui est donné. Quand vous donnez le pouvoir à quelqu'un, quand vous donnez votre foi à quelqu'un, quand vous donnez votre fidélité à quelqu'un, vous lui donnez un anneau, évidemment, ce n'est pas l'anneau que vous donnez. C'est ce qui va avec. Donc, en fait, la matérialité du don est, dans la plupart du temps, moins importante que le don lui-même. Donc, en fait, le don est immatériel. On peut même se demander s'il n'est pas toujours immatériel, d'une certaine façon. Parce que quand vous faites un don, quand vous donnez à boire à quelqu'un dans le désert, vous ne donnez pas à de l'eau. Vous lui donnez de ne pas claquer. C'est quand même différent. Donc, il faut bien. Donc, j'essayais de montrer que le don lui-même pouvait, si je puis dire, être pensé à partir de la donation. C'est-à-dire, Ricoeur avait raison, on ne peut pas penser de la donation à partir du don, puisque le don est pensé ou comme impossible ou comme un échange. Mais par contre, on peut faire l'inverse. Alors, à partir de ce moment-là, il était devenu possible de parler du phénomène du point de vue de la donation, c'est-à-dire de l'auto-donation du phénomène. Et là, on est évidemment confronté à la dimension événementielle du phénomène. C'est-à-dire, un vrai phénomène, c'est un phénomène qui arrive à sa propre initiative. Donc, c'est ce que j'ai essayé de décrire, avec des différentes caractéristiques. L'anamorphose, c'est-à-dire que le phénomène n'est visible que du point de vue choisi par le phénomène et non pas par l'observateur. Le phénomène arrive quand il arrive, c'est-à-dire qu'il est la différence entre l'arrivée et l'arrivage. L'arrivée est toujours prévue. Le train arrive à Fribourg à telle heure. L'arrivage, c'est le terme qu'on utilisait pour l'arrivage des poissons à Paris. C'est selon la marée. Vous savez, comme dans les restaurants de poissons, on dit selon la marée. C'est-à-dire, on va prendre ce qu'il y a ce jour-ci et à l'heure où il arrivera, qui n'est pas prévisible. Donc, l'arrivage, ça veut dire que la date d'arrivée, l'heure d'arrivée, dépend du phénomène et pas du tout de celui qui organise le transport. Donc, le phénomène arrive par arrivage et non pas par arrivée. Il n'y a pas d'horaire. Le phénomène est toujours un incident, au sens où l'incident a des incidences. Ça fait une différence. Les objets peuvent, dans certains cas, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, ne fait aucune différence. Tandis que le phénomène, en tant qu'il advient, fait une différence. Il y a aussi le fait que le phénomène est incident et qu'il est donc d'une contingence essentielle aussi. Contingence, c'est-à-dire qu'il vous touche, mais il vous touche quand il veut. Il a l'initiative. Et il a ce caractère d'être imprévisible. Alors, il y a beaucoup de caractères, le phénomène qui se donne. Il est imprévisible, c'est-à-dire qu'il peut arriver sans qu'on l'attende, et donc il peut devenir effectif sans qu'on ait pu le comprendre à l'avance. Tout ce caractère de l'événement, c'est qu'il peut parfaitement être à la fois effectif et impossible. Et les grands événements sont toujours effectifs avant d'être compréhensibles. C'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas compréhensibles, ils restent impossibles, au sens métaphysique du terme. Donc, la guerre de 14, le déclenchement de la guerre de 14, est un événement, parce que personne n'a jamais compris comment ça s'était passé. le 11 septembre 2001 aussi. Mais quand vous êtes tombé amoureux pour de bon aussi. Bon, tout ceci, ce sont des événements. Alors, ils sont imprévisibles, inconcevables, impossibles au sens métaphysique du terme, néanmoins affectifs. C'est-à-dire qu'ils bouleversent les catégories de la modalité. Dans les catégories de la modalité, on commence par être possible, après on est effectif. Là, on est effectif avant d'être possible. C'est comme ça. C'est étrange, mais c'est comme ça. On reconnaît très bien un phénomène, un événement à ça. Et puis, il y a aussi cette caractéristique de l'événement, c'est que il n'est pas productible, on ne peut pas le prévoir, et on ne peut pas le planifier à l'avance en ayant sa définition et sa composition chimiquement pure, si je puis dire. Donc il est non reproductible. C'est-à-dire l'événement ne se reproduit jamais à l'identique. Ce qui fait une autre différence avec l'objet technique, évidemment, avec l'objet, parce qu'il n'y a pas d'autre que l'objet technique. Donc, le phénomène en tant qu'il se donne, c'est lui qui mène le jeu. Alors, à l'intérieur de ça, on peut aussi montrer qu'il y a des phénomènes plus ou moins, ce que j'appelle les phénomènes saturés, c'est des phénomènes qui ne peuvent pas s'expliquer, se concevoir, se comprendre par un seul concept, il en faut plusieurs, et donc qui ne sont pas l'objet d'une constitution, mais d'une herméneutique, d'une interprétation. Donc, à ce moment-là, on peut, si vous voulez, faire que que l'expérience du monde trouve son centre de gravité, non pas dans le jeu constituant, le jeu transcendantal, comme dans l'approche objectiviste des choses, mais trouve son centre de gravité dans le phénomène lui-même. C'est le phénomène qui se donne. Et alors ma thèse, c'est que, en réalité, contrairement aux apparences, ce sont toujours les phénomènes qui mènent le jeu. Chaque fois que c'est nous qui menons le jeu, ce sont des phénomènes pauvres, ou des phénomènes de droit commun, des phénomènes non décisifs. Nous contrôlons dans le monde ce qui est non décisif. Ce qui est décisif pour nous-mêmes, c'est justement ce que nous ne contrôlons pas. Donc le phénomène se définit par la donation et non pas par sa production, sa constitution, sa synthèse.
Juste une question. Dans la manière de dire et puis dans les exemples donnés souvent, et c'est justement l'objection qu'on vous a fait, vous prenez des cas limites. L'amour, le 11 septembre, parler d'événements, on pourrait croire que c'est des événements qui sont constitués. Et puis même là, de dire il y a des phénomènes saturés et il y a des phénomènes pauvres, on pourrait croire que c'est des domaines séparés, en fait, et voire même des domaines d'objets séparés. Alors qu'en fait, c'est plutôt tout phénomène qui est phénoménal. Tout phénomène est phénoménal. Et même, l'enjeu, c'est de changer de point de vue, d'aller plus loin et de passer finalement, on pourrait dire, des data au donum. C'est-à-dire de voir, même à la limite, ce micro qui est devant vous, il a un caractère d'événement à partir du moment où je le considère comme donné, pas simplement comme objet, mais dans l'acte même de cette donation de quelque chose qui se présente à moi, qui se donne à cet instant. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des cas exceptionnels.
Oui,
le phénomène pauvre est encore un phénomène saturé, sous un certain rapport, enfin, qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça.
C'est une objection qui m'a été faite et qui était justifiée. Et donc, j'ai, si je puis dire, immédiatement tenté de répondre à l'objection, dans De Surcroît, et puis après dans un article qui est paru dans Visible et Révélé, qui s'appelait « La banalité de la saturation ».
Oui.
L'idée générale est la suivante, c'est-à-dire qu'en fait, le phénomène saturé, c'est-à-dire le phénomène, ou au contraire, chez Kant et en métaphysique en général, un phénomène c'est un concept, une signification, vide au départ, et puis une intuition sensible, d'origine empirique, évidemment. Et quand on fait coïncider les deux, on a un objet. Bon, c'est-à-dire, j'entends du bruit dans le couloir, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est une impression sensible, donc le bruit n'a pas de signification. Ça peut être rien, ça peut être un chat, un voleur, le toit qui s'écroule, enfin, n'importe quoi. Un camion qui passe, un transistor qui se met en marche tout seul, enfin ça peut être tout ce qu'on veut. Bon. Donc je vais essayer de trouver des hypothèses, pour savoir s'il faut vraiment que je me réveille pour les voir, etc. Et c'est en ce cas-là qu'il faut que je prenne mon fusil qui est forcément dans ma table de nuit, comme dans tous les films noirs. Bon, on verra. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, il y a plusieurs significations possibles. Je vais en éliminer un certain nombre, puis je vais finir par trouver la bonne. Et puis là, c'est cool, je vais me rassurer, je vais me rendormir. Bien. Donc, on voit très bien comment on constitue le phénomène. On transforme une sensation en un phénomène en lui trouvant la bonne signification. Alors, chez Kant, et dans toute la métaphysique classique, la plupart du temps, alors évidemment, l'idéal, c'est quand il y a autant de significations que de concepts, c'est-à-dire quand la cruche est complètement remplie d'eau. Ce qu'on appelle, en termes techniques, l'adéquation de la chose et de l'entendement, ou comme on voudra dire, et puis, cette adéquation permet l'évidence. Mais la plupart du temps, nous pensons des jugements vrais, sans évidence. C'est-à-dire... j'ai pas besoin de voir dans le détail la voiture pour l'entendre, pour savoir que c'est une voiture qui passe. Je peux même, si j'ai un peu l'oreille dressée, presque deviner la marque de la voiture ou sa taille. Donc j'ai besoin de très peu d'intuition pour avoir la bonne signification, c'est-à-dire constituer le concept. Et en fait, quand on est bien intégré dans une société, dans un système, on a besoin de très peu d'intuition. Quand on prend le train, on prend que des concepts. Hein. On ne va pas regarder le train pour être sûr que c'est un train. On monte dedans, on ne sait pas combien de roues il y a, on s'en fout complètement, on ne sait pas qui le conduit, on ne sait pas où il va, on sait qu'il y va, c'est écrit, concept, sur le billet, concept. Bon. Donc on est dans des concepts. On est en deuxième ou en première, on a sa place, enfin, on est dans des concepts. Il y a très peu d'intuition. C'est parce qu'on est bien adapté. Quand vous utilisez votre téléphone portable, vous utilisez des concepts. Vous ne savez pas comment ça fonctionne à l'intérieur, vous en fichez complètement, et vous avez raison. Donc, une carte bancaire, c'est pareil, c'est des concepts. Nous, la plupart du temps, nous avons très peu d'intuition. Nous avons besoin de très peu d'intuition pour valider des concepts. Et nous avons des phénomènes qui sont essentiellement conceptuels. Ce que j'appelle un phénomène pauvre, quand il n'y a pas d'intuition du tout, comme en mathématiques ou en logique formelle, il n'y a quasiment pas d'intuition, ou un phénomène de droit commun, c'est-à-dire un phénomène, c'est comme les banques, quoi. Elles vous prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas, parce qu'on leur fait confiance. Bon, alors maintenant, elles ont des contraintes extrêmes, je crois qu'elles doivent avoir, elles ont besoin de 13% de fonds propres, énorme. Tout le reste de l'argent sur lequel vous payez des intérêts, et qu'elles vous prêtent, les banques ne l'ont pas, cet argent. C'est pour ça qu'elles gagnent de l'argent. Parce qu'elles vous prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas, évidemment. C'est pas fou, quand même pas vous prêter de l'argent qu'ils ont. C'est un drôle de métier, quand même, banquier. Hein. Bon, enfin, toujours est-il que, on voit bien que l'absence ou la pauvreté de l'intuition est la condition du fonctionnement de nos sociétés. Qui sont basés sur l'intelligibilité du concept. Donc nous sommes dans des concepts. Nous vivons dans des concepts avec très peu d'intuition. Alors, ma thèse, c'est qu'il y a des cas où il y a non seulement beaucoup d'intuition, mais qu'il y a plus d'intuition que de concept. Ce que j'appelle un phénomène saturé. Et l'exemple de l'événement qui arrive avec une massivité d'intuition, il y a des morts, vous êtes bouleversé, vous êtes amoureux, enfin, ça fait des ravages quand l'événement se produit, mais vous ne pouvez rien expliquer. Donc là, il y a un surcroît de l'intuition sur le concept. Le tableau, tout à l'heure, bon, il est évident qu'il est beau, qu'on va passer son temps à venir le revoir, mais on est bien incapable de dire pourquoi il est beau plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est la caractéristique. Bon, l'idole et l'icône aussi sont des phénomènes saturés. Bon, le phénomène saturé, alors, on m'a dit, mais vous prenez des cas exceptionnels.
Là, vous avez dit, il y a des cas.
Il y a des cas. Eh bien, c'est pas si simple. Parce que, en fait, même des phénomènes pauvres peuvent devenir des phénomènes saturés. Et.
Où sont des phénomènes
saturés. Où sont des phénomènes saturés qui s'ignorent.
Voilà.
Par exemple, vous prenez le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est la Côte d'Ivoire. Ou de la Guinée équatoriale. Vous remarquez qu'il est fait de trois bandes. Verte, jaune et orange, ou un truc comme ça. C'est pareil qu'un tableau de Roscoe. Pareil. Pourtant, un tableau de Roscoe, c'est un phénomène saturé.
Marc Roscoe,
le peintre. Pourtant, un tableau de Roscoe, c'est un phénomène saturé. Et le drapeau ne doit pas être un phénomène saturé, il doit être un pur signe, un symbole. C'est-à-dire tout le monde doit dire, ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ou la Guinée-Bissau, etc. Donc, ici, c'est le concept qui fait que ce n'est pas un phénomène saturé, mais du point de vue de l'intuition, c'est la même chose. Il n'y a pas de concept pour le tableau de Roscoe, il y a un concept pour la Guinée-Bissau. Si vous mettez, vous pouvez utiliser, en cas d'urgence, un tableau de Roscoe pour faire le drapeau de la Guinée-Bissau. Ça coûte cher, mais de la même manière qu'on peut improviser un drapeau blanc ou un drapeau suisse avec peu de choses, en cas d'urgence. Parce que là, à ce moment-là, c'est le concept qui l'emporte. Mais prenons un autre cas. Quand on fait une annonce dans un lieu public, même s'il y a du bruit et qu'on fuve, vous entendez quoi ? L'information, le train partira, quai, temps, à telle heure, pour telle direction. Donc à ce moment-là, vous entendez le concept. Même si la voix qui donne les informations est charmante, vous n'écoutez pas la voix qui est charmante. Si vous écoutez la voix charmante, vous allez rater votre train. Évidemment. Donc, ou bien vous avez le concept, ou bien vous avez la voix charmante. Et au contraire, si vous entendez une chanteuse à l'opéra, elle chante la Zauberflöte, vous ne savez pas l'allemand. Vous en moquez complètement. Vous ne comprenez rien, mais vous n'êtes pas là pour comprendre. Ce qu'il vous faut à ce moment-là, c'est l'intuition. Ce n'est pas la signification. C'est l'inverse de l'annonce dans l'aéroport ou la gare. Donc, la même voix peut avoir deux statuts. Si vous prenez le goût du vin, le vin, après tout, c'est une composition chimique, on peut vous expliquer ça, ça a une valeur marchande, enfin, il y a des tas de concepts qui se rattachent au vin. Il y a la science de l'œnologie, qui est une forme de la chimie, de la physique, etc. Bon. Mais au bout du compte, le vin, ça se sent avec les papilles, et vous pouvez être capable, si vous êtes entraîné, de dire c'est tel cépage, c'est tel terroir, c'est peut-être même tel producteur, c'est telle année, etc. Bon, à ce moment-là, vous traitez l'intuition, le surcroît de l'intuition, parce que un mauvais vin et un bon vin, ça se voit pas dans la formule œnologique, la formule chimique. Donc le concept ne vous dit pas pourquoi il est bon, pourquoi il est mauvais. Il ne vous dit même pas s'il est bon ou s'il est mauvais. Sauf quelques excès, qu'il soit salé ou horriblement sucré ou horriblement acide. Peut-être qu'on peut le voir dans la formule chimique, mais pas autrement. Donc, en fait, l'œnologie, enfin, celui qui goûte le vin et qui s'y connaît, c'est quelqu'un qui considère le liquide non pas comme un objet phénomène commun, mais comme un phénomène saturé. Et l'événement, par exemple, j'avais pris l'exemple d'un événement quand vous faites une conférence dans une salle, c'est tout à fait routinier. Les salles, c'est fait pour qu'on y fasse des conférences ou des cours. Bon. Donc c'est un phénomène commun. et l'administration de l'université, il tient ses registres, tel jour c'est un tel, tel jour c'est un tel, etc. Donc il n'y a rien de plus banal qu'un cours. Sauf que, il peut y avoir des conférences dont on se souviendra longtemps. Ou bien parce que le gars était ridicule, ou bien parce qu'il s'est passé quelque chose, on a dit quelque chose, on a compris quelque chose. Et bon, quand Husserl est venu à la Sorbonne en 1929, les gens s'en souviennent encore. Ça a donné l'imitation cartésienne. Bon, quand Heidegger a fait son discours de rectorat, les gens s'en souviennent encore. C'était un événement. Bon, on voit très bien que pour quelqu'un qui ne connaît rien en philosophie, c'était d'une banalité affligeante, incompréhensible, sans intérêt, barbant, etc. Bon, pour les gens qui comprenaient quelque chose, c'était un événement qui ne pourra pas se répéter, qui ne pourra pas s'effacer non plus. D'ailleurs, on aurait bien aimé que ça puisse, ça ne peut pas. Bon. Donc, il faut bien comprendre que le caractère de phénomène pauvre, de phénomène de droit commun ou de phénomène saturé dépend de la façon dont il est j'allais dire expérimenté. Et ça dépend, c'est donc une question d'herméneutique. Pour quelqu'un qui n'a aucune culture musicale, je me répète un peu, mais les Danube Quatuors de Beethoven, c'est vraiment de la musique complètement désarticulée, c'est complètement raté, enfin c'est du cracrin, c'est... Bon. Et puis quelqu'un qui a une certaine culture musicale, c'est pour ça que c'est génial. C'est le même son que l'on entend. On peut dire aussi que moi, le rock metal, je ne peux pas supporter une seconde. Il y a des gens qui me disent que c'est très subtil et très bien, etc. Peut-être. Bon, je veux dire, on a les phénomènes saturés qu'on mérite. Non, mais c'est très important, ça. Parce que ça veut dire que le phénomène saturé, ça correspond à la définition de la vérité Red Argens, le phénomène saturé dépend de celui qui le reçoit. Comme disaient les scolastiques, ad modum recipientis, selon le mode de du récepteur, dans tous les sens de récepteur. C'est-à-dire, de fait, nous n'avons pas tous les mêmes phénomènes saturés. Parce qu'il faut avoir les moyens d'être saturé. C'est une question de sensibilité, au sens...
Pour le métal, il y a de la saturation, hein. Ça oui. S'appelle comme ça. Hein.
Oui, bien sûr.
L'effet sur les guitares.
Mais j'ai même rencontré un compositeur de musique... électroacoustique qui m'a expliqué qu'il y avait un concept très précis de son saturé, que ça correspondait à ce que je disais, etc. Donc, on voit très bien, par exemple, on peut dire qu'un musicien, par exemple, est quelqu'un qui est capable d'entendre et de faire entendre des sons que personne n'avait entendus avant lui. Ou un peintre. Un peintre, par exemple. Un grand peintre ne reproduit rien de déjà visible, il ajoute du visible au visible. C'est-à-dire, avant Rembrandt, personne n'avait peint Rembrandt. Enfin, bon, c'est le premier à faire du Rembrandt. Après, on a essayé d'en faire d'autres, mais je veux dire, d'autres ont essayé de faire du Rembrandt, mais ils ont ajouté. Donc, chaque peintre... Il a sa patte et il fait voir des choses que personne n'avait jamais vues avant.
Mais est-ce que justement, parce que l'intérêt que vous avez pour la peinture, on pourrait parler de la poésie, c'est précisément d'être capable de voir le phénomène saturé là où tout le monde voit un phénomène pauvre, d'être capable de voir l'événement là où on ne perçoit que banalité. Et le type même, par exemple, c'est la nature morte. Enfin, peindre un pichet, des tournesols, une pomme, quand Cézanne dit... Avec une pomme, je veux étonner Paris. Il va peindre une pomme. C'est une pomme. Bon, c'est pauvre. C'est bon. Ben mais non. Là, justement, c'est la pomme devient l'événement.
Absolument. Et j'ai introduit le concept de ce qui vaut de résistance, au sens de la résistance électrique, si vous voulez, la résistance à l'échauffement, etc. Un grand peintre, musicien, sculpteur, etc., c'est quelqu'un qui est capable d'encaisser, si je puis dire, de l'excès d'intuition, qui laisse tous les autres, ou bien on est brouillé, si je puis dire, il y a des cas où le spectateur normal est saturé, il ne voit plus rien, il n'entend plus rien, il explose, enfin, il ferme les égoutilles et il ne peut plus survivre à l'expérience. le grand peintre ou le grand musicien, c'est celui qui est capable de faire venir au visible cet excès d'intuition, devant lequel tout le monde cale. Et alors après, il nous familiarise avec ça, et du coup, il y a des nouveaux phénomènes saturés qui sont enregistrés. Et ça, c'est d'où l'aspect absolument exploratoire et créatif des véritables artistes. Les écrivains, c'est pareil. L'écrivain, il arrive à me faire accéder à un phénomène qui était trop saturé pour que je puisse le percevoir. Et du coup, il me dit une vérité qui est à moi, autant qu'à lui, et que pourtant je ne pouvais pas voir, connaître, sans lui. C'est cette phrase de Proust disant « Je veux que mon lecteur dise, mais cette histoire, ce n'est pas l'histoire qui est arrivée au narrateur de la recherche, c'est mon histoire à moi. » Et de fait, quand vous lisez Proust, si vous voulez savoir quelle était votre enfance, ben vous lisez Proust, il va vous l'expliquer. Parce que vous ne le savez pas. Mais lui, il va vous le faire sentir. Et on lit les écrivains pour qu'ils nous parlent, pour qu'ils me parlent de moi, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Et si les gens deviennent malheureux, c'est parce qu'ils ne lisent pas assez de littérature. Non, je pense que beaucoup de la violence, une bonne partie de la violence sociale vient du fait que les gens ne peuvent pas identifier leurs émotions, ne peuvent pas les dire, les articuler. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas les dire? Ben parce que personne ne les leur explique. Et ce n'est pas en regardant la télévision que vous allez devenir plus subtil pour analyser ce qui vous arrive. Ce n'est pas en allant chez l'assistante sociale, à l'agence pour l'emploi, dans les cellules psychologiques et autres fariboles. Non, ce sera en lisant à l'avance ce qui se passe quand on est malade, qu'on va mourir, quand on est amoureux, que ça se passe bien, que ça se passe mal, quand on va au régiment, quand c'est la guerre, etc. Tout ça, vous pouvez le lire en avance, avant que ça vous arrive, chez Tolstoï, dans la montagne magique, dans Proust, dans Stendhal, etc. Alors quand ça vous arrive, vous avez les mots pour le dire, vous reconnaissez la situation. Vous avez une chance de ne pas devenir fou. Mais si vous n'avez jamais vu comment ça se passe à l'avance, vous-même, vous allez devenir fou, vous allez être complètement terrorisé. Donc on devrait obliger tous les mômes un peu boutonneux à 12-14 ans à lire la Chartreuse de Parme ou regarder du Stendhal, excellent. Je ne dis pas qu'ils feront moins de bêtises après, mais ils sauront au moins ce qui leur arrive. Et les gens, ils ont qu'à lire Proust, Céline, Tolstoï. Parce que là, ça vous donne les moyens de dire ce qu'on éprouve, de penser ce qui vous arrive, et surtout à l'avance. Et c'est très curieux qu'on se prépare à beaucoup de choses pour l'avenir. Comme si nous n'allions être en rapport durant notre vie qu'avec des objets. Bon, alors, avoir la rationalité des objets, c'est très bien, mais les coups durs ne viendront pas de ce côté-là. Sauf si y a un pneu qui éclate dans votre voiture quand vous êtes à 150. Bon, d'accord, c'est même pas sûr. Maintenant, les voitures sont tellement bien faites que je ne suis pas sûr du tout que vous allez vous tuer. Mais vous pouvez vous tuer à cause de phénomènes saturés mal reçus.
Juste pour finir, revenir sur cette question de la donation, est-ce qu'on pourrait pas dire, parce que dire que les phénomènes viennent au devant de nous, que même les choses les plus élémentaires, qui sont évidentes et donc de l'ordre du phénomène pauvre, en réalité, le fait même qu'elle soit intelligible suppose quelque chose de saturé, qui est ce mouvement de... Enfin, le fait que le visible soit visible, enfin, dans sa visibilité même, sa source, elle est en quelque sorte invisible, et donc quelque chose qui est en excès. Mais est-ce que finalement, ça n'est pas la... On vous l'a reproché aussi, la, la théologie qui s'infiltre secrètement dans la phénoménologie, puisque s'il y a donation, on va penser qu'il y a un donateur.
Ben oui.
Et donc, alors vous avez employé le mot autodonation du phénomène, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la pensée de Portman sur l'auto-présentation des vivants, est-ce qu'au fond, ce dont vous parlez, ce ne serait pas le fait qu'il y a un donateur, que les choses viennent à nous comme données par le Père, par l'Époux, par Dieu?
Alors, là-dessus, il y a plusieurs... il y a plusieurs erreurs de fond dans ce type d'objection. Le premier, c'est que la théologie, elle ne vient pas subrepticement. Quand la théologie vient, la vraie, ça se fait avec perces et fracas, à coups de trompette, elle ne passe pas inaperçue, elle n'entre pas. Bon, ça, c'est la théologie telle que l'imaginent les gens qui n'y connaissent rien. La théologie, c'est brutal. Comme on dit dans les tontons flingueurs, dans la scène de la cuisine, c'est du brutal. La théologie, c'est une boisson d'homme. C'est pas un truc qu'on fait en douce. Ça n'a pas de sens. Et la théologie qu'avec la révélation, et la révélation, encore une fois, c'est du brutal. Donc, c'est un peu ridicule de parler d'une théologie en cachette. Deuxièmement, les gens qui soupçonnent que si le phénomène se donne, et si la donation est la détermination la plus fondamentale de la phénoménalité, donc il y a un donateur, et c'est le bon Dieu qui tire les ficelles. Bon, c'est ça qu'ils craignent beaucoup. Il faut bien comprendre que si Dieu tire les ficelles, c'est que ce n'est pas de la donation. Parce que la donation, c'est justement quand il n'y a pas de causalité derrière les faits. S'il pense que Dieu est derrière et tire les ficelles, c'est parce qu'il pense la donation et la création en termes de causalité efficiente. Alors je sais bien qu'il y a des théologiens qui ont eu la faiblesse de le faire, mais s'ils ont eu tort. La donation, la création, c'est une donation, c'est pas une causalité efficiente. Le donner, c'est justement ce qui n'a pas de cause efficiente. Ce qui se donne, c'est ce qui ne tombe pas sous les catégories. Il n'y a pas de cause efficiente. Pas plus Dieu qu'autre chose. Et, vous parliez du Père, le propre du Père, c'est qu'il n'est pas la cause efficiente de ses enfants. C'est-à-dire, une fois que c'est fait, et on ne peut pas revenir en arrière. Et il peut essayer de contrôler, mais ça, c'est pas sa paternité. C'est la reprise de possession, si possible, du père abusif. Mais si c'est un don, il est irréversible et il est un détachement. Le propre du père, c'est que ses enfants ne lui rendront jamais ce que le père leur a donné, enfin les parents. Donc, les parents donnaient la vie aux enfants, les enfants donneront la vie, mais à tout le monde, sauf à leurs parents.
D'ailleurs, le retour du fils prodigue, c'est pas qu'il vient pour rendre au père, qu'il vient pour recevoir encore, qu'il avait tout gaspillé, c'est
oui,
ça en fait.
C'est ça. Donc, la paternité, c'est justement la dépossession. Le père Goriot est beaucoup plus proche d'une définition correcte de la paternité. Donc la paternité, c'est pas le contrôle. Ça, c'est la causalité efficiente. Alors, c'est très curieux de voir, les objections de Jellicoe et quelques autres, c'est d'une naïveté insensée. C'est-à-dire, si l'on interprète le donné et la donation comme un cas de causalité efficiente, dans ce cas-là, Dieu est derrière. Mais justement, le donné et la donation, c'est ce qui libère le phénomène de la causalité efficiente et des autres, d'ailleurs, catégories, a priori, de la métaphysique. Donc, c'était insensé. Il fallait vraiment... C'est un très, très bon collègue, un ami, un petit garçon, mais là, il a complètement raté son coup, il a pété les plombs. C'est-à-dire, non mais c'est inouï d'interpréter la donation comme une causalité efficiente cachée, d'imaginer que la théologie puisse entrer subrepticement sans se faire remarquer dans le discours philosophique. Il faut vraiment être complètement perdu pour dire ça. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, c'est pourquoi cette objection est tombée. Parce qu'il y a d'autres difficultés. Quelle est là-dedans? Quelle est la nature exacte de l'herméneutique qui permet de passer d'un phénomène pauvre à un phénomène saturé? Ça, c'est bien sûr difficile. Quelles sont les opérations herméneutiques? C'est pas évident. Il y a d'autres difficultés, par exemple, à propos de la théologie. c'est de travailler là-dessus. Quel rapport y a-t-il entre la notion de révélation et une phénoménalité de la donation? Il est bien clair que la révélation peut peut-être se penser mieux si la phénoménalité est elle-même articulée à partir de la donation. Mais on ne va pas dire que la révélation est un cas particulier du phénomène saturé. La révélation est toujours en contradiction, d'une certaine manière, avec les conditions de sa réception. Et donc, ce n'est pas si facile à comprendre. Et il ne faut pas s'imaginer que la théologie classique est, c'est une chose d'ailleurs très étonnante, et le concept de révélation, comme vous savez, est un concept moderne qui date en gros du XIIIe siècle et qui était ignoré des pères qui n'ont pas de théologie de la révélation. Et donc, pourquoi est-ce que la révélation s'est imposée? Comment est-ce qu'elle s'est imposée comme un cas particulier de manifestation, donc de phénoménalité? C'est pas sûr. La phénoménalité de la révélation est peut-être, reste peut-être pour une large part à examiner, définir et constituer. Donc, ça fait partie des. Donc, il y a des problèmes qui restent. J'essaie d'y travailler avant que je ne devienne complètement gâteux,
mais on vous a reproché de tout réduire, de la réduction que vous faites à du révélé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est le propre de la révélation, c'est-à-dire Dieu, c'est non pas l'homme qui part à la recherche, disons, du réel, mais le réel qui s'impose, le réel qui vient, ou Dieu qui vient au-devant des hommes, cette notion-là de révéler s'étend désormais à toute la réalité et à toute phénoménalité. On pourrait accuser Jean-Luc Marion d'avoir une vision, enfin d'entrer dans une univocité à nouveau, mais du révélé.
Je pense que le révélé n'est pas identique au donné. Il y a du donné qui est la définition même du régime naturel des choses, indépendamment de la révélation. C'est-à-dire que si on veut décrire les phénomènes du monde, il faut penser ces phénomènes sur le fond de la donation. Et d'ailleurs, c'est intéressant que quelqu'un qui n'était pas chrétien, comme Patochka, dit non seulement que l'homme est ce qu'il appelle, je ne peux pas vous le dire en tchèque, le réalisateur de ce qui se donne. C'est exactement ce que j'appelle la donnée et de ce qui se donne, et que le monde lui-même doit être conçu comme l'ensemble de ce qui se donne. Et je pense qu'il est dans la droite ligne de Husserl et d'une certaine manière de Heidegger en disant ça. Parce que Heidegger, finalement, le fin mot de Heidegger, c'est dire Ereignis. Alors, Ereignis, ce n'est pas l'événement au sens banal du terme, enfin, c'est quand même l'avancée, la complétude des choses. L'Ereignis, de toute façon, n'est pas constitué. L'Ereignis, ce n'est pas un sujet qui constituerait les phénomènes. C'est la manière d'autoconstitution des phénomènes. Donc, Donc, la donation entre dans ce contexte général d'une redéfinition de la phénoménalité. Alors, on va dire, mais tout ça, c'est le bon Dieu. Non, ce n'est pas si simple. Parce que la révélation, au sens de la révélation biblique, est un événement, mais un événement très particulier. C'est un donné autonome, mais très particulier. Encore une fois, c'est un donné qui met en cause celui qui le reçoit, ce qui n'est pas le cas des autres événements. Ça, c'est encore une vision trop simple du rapport théologie-philosophie. Il ne suffit pas d'avoir une phénoménalité de la donation, une phénoménalité de la donation, pour avoir une théologie de la révélation. Évidemment, les gens qui n'ont aucune... Vous connaissez ce que disait Russell. Russell, c'est un type très, très intéressant parce qu'il était très intelligent, très doué, et en fait très bête. Mais ce n'est pas contradictoire, on peut être très intelligent et très bête. Et alors, il est très intelligent parce qu'il a fait des Principia Mathematica, bon, quand même, respect. Bon, avec Frege, c'était quand même un des meilleurs logiciens.
Bertrand Russell. Enfin, je le dis avec mon accent.
Et alors, Bertrand Russell disait, j'ai commencé, quand j'étais vraiment très fort, je faisais de la logique formelle, après j'ai fait des mathématiques, puis après je me suis intéressé à la physique, après je suis passé à la philosophie, puis à la morale, et à la fin je terminais en faisant la théologie. Sous-entendu, c'est ce qui est le plus facile quand on est gâteux, qu'on n'a plus les moyens de se concentrer longtemps, que, etc. On fait de la théologie parce que c'est facile. Et il y a beaucoup de philosophes qui pensent que la théologie c'est facile. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est facile, parce que, comme dit très intelligemment Heidegger, on a déjà les réponses aux questions. Heidegger a pu dire ça, quand même, alors qu'il en savait de la théologie. C'est quand même incroyable. Or, en théologie, on n'a pas les réponses aux questions, on ne sait même pas exactement comment les questions se posent. Je veux dire, c'est idiot de dire ça. Bon. Donc la théologie, en fait, c'est beaucoup plus difficile que la philosophie. Mais ça, les philosophes ne le savent pas. Ils sont persuadés que c'est eux qui font les choses les plus difficiles. Non, non, non. J'ai essayé les deux, je vous promets que la théologie, c'est plus difficile. Il faut être plus savant, d'abord, il faut savoir plus de choses, infiniment plus. Parce que la philosophie, si vous savez le grec, le latin, hein, l'allemand, les autres langues, ça va. Et puis, finalement, ça ne dure pas très longtemps, la philosophie, tandis que la philosophie active. Hein. Mais la théologie, ça se complique énormément. Énormément. Il y a beaucoup plus à lire. Et puis, il y a beaucoup plus de langues, et puis, enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Puis, c'est plus subtil. Parce que quand vous faites une fausse note en philosophie, personne ne le remarque. Tandis que quand vous faites une fausse note en théologie, paf, ça fait une hérésie. Ça se voit tout de suite. Ah mais non, mais non, c'est ça. La moindre déviation, c'est raté. En philosophie, vous pouvez vous permettre de rater beaucoup de choses. On vous félicite d'avoir réussi quelques-unes. Non, mais c'est vrai. C'est très bien. Un philosophe, c'est quelqu'un qui trouve quelques arguments qu'on pourra réutiliser même si on n'est pas d'accord globalement avec lui. C'est déjà une contribution à la philosophie. Donc j'espère être un bon philosophe parce qu'il y aura quelques arguments qui resteront de mon travail. Mais bon, c'est bien. Mais en théologie, c'est pas ça. Si vous faites la moindre faute, paf, vous êtes à côté de la cible, tout est raté. Et donc c'est presque inutilisable le reste. Les jansénistes étaient des gens très intelligents, très cultivés. Ben, il n'en reste rien. Sinon, des erreurs qui ont coûté très cher à la théologie après. Donc, si vous faites une erreur là-dessus, sur la question de la grâce, ben vous êtes mort. Voilà. Donc, c'est tragique. Hein. La querelle des auxilies sur la grâce, libre arbitre de grâce, liberté, nécessité, pression divine, tout ça, c'est une querelle qui n'a jamais été tranchée, ni par Rome, ni par les protestants. Jamais. Comme la question était mal posée, toutes les réponses étaient fausses, la seule chose qu'il y avait à faire, c'était d'oublier. Ce qui prend du temps. Donc en théologie, les erreurs se paient extrêmement cher, ça dure très longtemps. Donc la philosophie, c'est beaucoup... La philosophie, on pardonne beaucoup en philosophie.
On va passer aux questions. On va passer. Bon. La question n'a pas été tranchée, mais tout le monde était mort. Donc... On va penser à des questions. Je vais prendre d'abord s'il y a toujours des questions de ce côté. Alors,
oui, enfin, il y aurait beaucoup de choses, enfin, questions.
Jacques, alors.
Commenter, évidemment. Bon, là, je reviens un petit peu en arrière. À la fin de votre exposé précédent, vous avez dit, et je pense que ça peut servir peut-être aussi presque d'introduction à ce qui a été dit sur la philosophie. Donc, pas une seule manière de connaître. Donc, je dirais, une pluralité épistémologique, mais qui correspond aussi à une pluralité des ontologiques, c'est-à-dire des différents types d'êtres qui, chacun, appellent à notre discours, etc. Et donc, effectivement, les sciences, je dirais, à l'intérieur même des sciences, il y a... la science physique qui correspond à un certain type d'être, d'objet. Il y a les sciences du vivant qui correspondent à un autre type d'objet. Donc, plutôt, je pense à rejoindre la phénoménologie, ce qui a été. Il y a des aspects très intéressants chez Husserl, disant la vraie méthode suit la nature de la chose à connaître ou à rechercher. Les régionalités ontologiques chez Husserl. Et donc je dirais d'une manière générale, il y a cette dimension de la pluralité et fondant dans ce qui a été dit maintenant dans ce que l'on peut exposer, c'est du même ordre. Donc il y a, on peut dire, différents types de phénomènes.
Oui.
Le phénomène que vous appelez pauvre, et puis le phénomène saturé, moi j'aurais tendance à dire les phénomènes originaires qui ont cette particularité d'exister à partir d'eux-mêmes et de correspondre à un acte originaire, quelque chose qui est de l'ordre de la création. Mais alors, qu'est-ce qui... il manque quelque sorte, je ne dirais pas une instance, mais peut-être une faculté qui fait que nous pouvons, que l'homme de science, que chacun d'entre nous, se rend compte à quel type de réalité il a affaire. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre du tact ou de l'imagination. J'introduirai ici la faculté de l'imagination à côté de l'intuition et du concept. L'imagination comme ce qui fait que nous pouvons éventuellement aussi deviner, ayant affaire à quelque chose de nouveau, de deviner le type de discours, le type de regard aussi qui est appelé par telle ou telle réalité. Voilà.
Je ne suis pas sûr qu'on le devine.
Pardon ?
Je pense qu'on le décide plus qu'on ne le devine.
Oui, il y a une décision, mais cette décision
n'est
pas absolument arbitraire.
Elle n'est pas arbitraire, mais...
Elle est fondée, c'est là que je parlerai d'un tact herméneutique.
Oui, c'est une question herméneutique, mais l'herméneutique, c'est une question de décision, au bout du compte. Donc, c'est ce que tout ce travail-là, dans voir les différents types de constitution, de non-constitution, ça relève de l'herméneutique. Donc, c'est pourquoi j'accepte tout à fait de me dire qu'on me dise qu'il faudrait développer plus en détail ce que j'appelle l'herméneutique affinie, qui est requise. Mais la difficulté, c'est que dans l'herméneutique telle qu'elle est pratiquée habituellement, d'abord, l'herméneutique présuppose trop de choses pour être une herméneutique radicale. Elle présuppose toujours soit un texte, soit des significations déjà disponibles, etc. Alors que la véritable herméneutique, comme dit Heidegger, c'est le en tant que, non pas herméneutique, mais le en tant que existentiel. Et le en tant que existentiel, c'est une question de décision, au sens de Seinsheit. C'est ce que je reproche un petit peu à l'herméneutique telle qu'elle est pratiquée dans l'héritage de Gadamer et de Ricoeur, c'est que elle se réduit trop à une interprétation des textes, alors qu'en fait elle est une décision qui précède l'interprétation. Enfin voilà, enfin, ça ce sont d'autres questions. Puis faire très attention à dire qu'il n'y a pas différentes régions d'objets. Il y a des régions où il y a des objets, des régions où il y a des étangs et des régions où il y a des phénomènes.
À cette harmonie en tant qu'existentielle, est-ce que l'amour est décisif?
Ben oui. Oui, moi je pense. Je pense que. C'était l'intérêt pour moi d'étudier le phénomène érotique. C'est-à-dire que l'amour est une suite. La logique érotique, car il y a une logique, progresse par une suite d'interprétations du donné, qui peuvent être négatives ou positives, arrêter le développement de la logique ou la relancer, et qui dépendent, et c'est pour ça qu'il y a de l'amour, de vouloir bien. Donc l'interprétation est à ce moment-là ce que Heidegger appellerait un als existentiel et pas un als herméneutique au sens étroit de l'interprétation d'un texte ou d'un message. On prend la décision, par exemple, de se déclarer, de déclarer à quelqu'un qu'on l'aime sans être certain que la réciproque est vraie. Bon, ça, c'est une décision. Tant qu'on n'a pas pris cette décision, rien ne va.
C'est-à-dire qu'on n'interprète pas dans ce cas-là comme un pur spectateur ou comme un sujet transcendantal. On retrouve cette structure,
oui,
on est interpellé.
Exactement.
Et donc on doit se décider à quelque chose.
Donc je disais que le phénomène érotique s'est basé sur trois questions. Premièrement, y a-t-il quelqu'un qui m'aime?
Alors, on va en parler demain.
Oui. Ensuite, est-ce que moi j'aime? Et en fait, j'ai déjà été aimé. Bon, à chaque fois, il y a une logique qui se déploie. Et c'est évidemment dans la réponse aux questions que cette logique se déploie. Bon, pour moi, c'est ça la vraie herméneutique. C'est, bon, il y a des règles d'interprétation textuelle, mais c'est pas de recourir aux symboles, tout ça, bon, c'est très bien, mais je veux dire, c'est pas le fond de l'affaire, quoi.
Donc, souvent, vous avez insisté sur renverser la philosophie première par dépasser la magie. Je me disais, plutôt qu'une philosophie de l'être, une philosophie de la, pas de la personne, mais qui pense l'intersubjectivité, parce que là, tout est inclus. Mm-hmm. L'ordre de la charité, la position existentielle, la décision, le fait que l'autre, on ne le comprend pas. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est ça qui doit être mis en première position en philosophie.
Oui, bien sûr, mais. Alors à ce moment-là, faut-il garder le terme même de philosophie, sauf à l'interpréter comme saint Augustin dans la Cité de Dieu, à savoir la philosophie c'est l'amour de la sagesse, donc c'est l'amour de Dieu, donc c'est l'amour du Christ, donc celui qui aime le Christ est le vrai philosophe. Bon, mais on voit très bien que ce que nous appelons philosophie, en fait, par rapport à l'origine de l'entreprise, est très peu de choses. La métaphysique était déjà très peu de choses par rapport à la philosophie. La métaphysique, c'est quand même la philosophie qui a renoncé à la sagesse, qui a échangé la sagesse contre un plat de lentilles, ce qui est la connaissance scientifique. Alors maintenant, on mange les lentilles, mais c'est tout.
On va manger ce soir.
Oui, maintenant, on n'en est même plus à manger les lentilles, on mange les cailloux qui sont dans les lentilles, et donc la philosophie est maintenant, c'est le... Un philosophe, maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui écrit dans les journaux pour commenter les dernières déclarations de M. Laurent Wauquiez et s'indigner, bien. Ou un philosophe, c'est un idéologue soft qui défend les résultats de son laboratoire. En étant un scientifique qui vient dire des choses, vous asséner des labalissades douteuses. Donc, c'est, je veux dire, la philosophie, maintenant, c'est presque rien. Alors, on ose à peine dire qu'on fait de la philosophie, parce que c'est pas recommandable. Enfin, les mères ne veulent pas donner leur fille à quelqu'un qui fait de la philosophie. Pianiste dans un bordel, d'accord, mais philosophe, quand même, non. Non, mais il y a un peu de ça. Donc, on est un peu démuni. On est un peu démuni.
Oui. Alors, bon, oui.
Merci. Pour revenir, ça sera rapide. Pour revenir au phénomène pauvre et au phénomène saturé, je me demandais si on ne pouvait pas évaluer les actions, l'agir de Dieudonné, l'humoriste, quand il tient des propos, disons, tendancieux, antisémites, racistes, etc., si son habileté à ne pas se faire coincer résidait dans une capacité qu'il aurait d'être d'osciller entre le phénomène pauvre, où on dit, tiens, c'est un raciste, et puis le phénomène saturé, on se dit, ah non, tiens, il y a plus, il est ironique, il fait des... Est-ce qu'on pourrait définir son jeu, son habileté en le...
Non, il fait ce que faisaient tous les polémistes du XVIe, du XVIIe ou XVIIIe siècle. Même Montesquieu dans les... Montesquieu ou Beaumarchais ou tous les libellistes, vous avez une interprétation haute, une interprétation basse du même texte. Ça, je pense que c'est plus banal. C'est-à-dire un bon polémiste... écrit de telle manière qu'on puisse le prendre à deux niveaux. Et jouer toujours l'imbécile en disant « Mais j'ai pas voulu dire ça, pensez donc, qu'est-ce que vous imaginez, c'est vous. »
Bon. Il semblerait que tout phénomène, justement, peut être...
Ah non, attendez, non. Le phénomène saturé, le passage du phénomène banal, la banalité de la saturation, c'est pas la duplicité. C'est pas la duplicité. La duplicité, ça consiste à dissimuler un sens par un autre. Le phénomène saturé, ça consiste à augmenter la signification du phénomène. C'est pas pareil.
Et l'ironie, le fait d'être
ironique. L'ironie, c'est autre chose, parce que l'ironie a un rapport direct avec le paradoxe, et que le paradoxe, c'est une des formes de la phénoménalité quand elle passe à la limite. Donc le phénomène Saturé, par exemple, a toujours un effet, peut avoir un effet ironique, parce qu'il est paradoxal. Et c'est pourquoi il y a une ironie de Socrate, il y a une ironie, Kierkegaard en a fait la doctrine, il y a une ironie des évangiles. Le Christ est ironique, parce qu'il renverse la signification des propositions. Le dialogue avec la Samaritaine est un cas exemplaire d'une ironie terrible. D'autant plus terrible qu'elle est bienveillante.
Le débat s'est élevé puisqu'on est passé d'étant donné à Dieu donné, ce qui est plus loin. Mais on va prendre encore une question.
Pour reprendre un terme que vous avez employé à propos d'Alquier, il disait que les philosophes disaient le même.
Non, c'est Beaufray.
Non, c'est Beaufray, Jean Beaufray.
C'est Beaufray qui disait ça. Et est-ce que vous avez l'impression. En fait, ce qui m'étonne chez vous, c'est que vous avez été biberonné, enfin, c'est une expression, à Descartes et à Kant. Et qu'on a l'impression qu'à la fin, vous venez de dire un peu le même que Thomas. Quand je vous entends parler, vous parlez des choses. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ?
Mais écoutez, à Fribourg, après qu'on m'ait tellement longtemps reproché d'être antithomiste, vous me disiez que je le suis consciemment ou inconsciemment, c'est le plus grand compliment que vous puissiez me faire. Et comment dire, il est bien clair que oui, je. La notion de chose, par exemple, une chose très, est une notion très importante. La philosophie a oublié la chose. C'est un des mérites de Heidegger d'avoir rétabli la question de la chose. La chose dans son opposition à l'objet. Et les scolastiques parlent des choses. Les modernes parlent des objets. Et c'est très bien de rétablir la chose. La chose dans sa réserve indéterminée de sens et sa possible autonomie. Donc nous sommes, notre monde est un monde en déréalisé parce qu'il a perdu la chose. L'objet, c'est beaucoup moins qu'une chose. Et cette idée que la connaissance soit être objectivante est une idée dont nous voyons quand même les limites maintenant.
Alors Thomas, pourquoi Thomas c'est le penseur de la chose ?
C'est pas le seul penseur de la chose, mais il est exemplaire du primat de la chose, parce qu'il dit assez peu objet, ou objet ne veut pas dire à ce moment-là la même chose que pour nous, parce qu'il n'y a pas de mathématisation de l'objet. Tous les médiévaux disent res, et ils le disent à la fois c'est une affirmation de réalisme, c'est une affirmation d'indétermination. Et topragma, prenons un cas pour terminer, le retournement de sens de eidos. Eidos qui veut dire d'abord la forme de la chose qui lui appartient et qui a sa plus haute visibilité en même temps que sa meilleure définition, qui va devenir plus tard la figura. Alors la figura, c'est le schéma de la chose qu'on lui impose, un schéma, une forme géométrique, une complexification de forme géométrique qui va lui tenir lieu de forme, mais qui lui viennent de l'extérieur et non pas de l'intérieur, et l'eidos va devenir par ailleurs l'idée en tant que représentation mentale. Là on voit très bien, c'est ça qui fait disparaître la res. La res, elle était présente dans l'esprit sans la matière, mais c'est la res. C'est l'eidos qui est présente dans l'esprit sans la matière, d'après Aristote. C'est pas une forme qui tient lieu de la chose, c'est pas une reproduction de la chose, c'est la chose en tant que telle qui est en tant que forme présente dans l'esprit. Et c'est la forme de la chose. Et donc, l'idée n'est pas mon idée. C'est la forme de la chose qui passe dans mon esprit. Alors là, on voit très bien le retournement. Alors l'objet, c'est ce qui a une forme qui lui vient de l'extérieur et qui est représenté dans une idée. Tandis que la chose, elle est en personne.
Ça, c'est Descartes.
C'est séparation. Oui, bien sûr, c'est Descartes. Il n'est pas le premier, mais c'est lui qui est celui qui radicalise le truc.
Original,
ah mais ça c'est vrai, bien entendu. Mais les thomistes devraient comprendre que c'est pas que eux déjà avaient quand même commencé le boulot, que ça, il faut le voir par rapport à Aristote.
Et puis voir aussi tout le phénomène de la néoscolastique, c'est-à-dire que saint Thomas a été retrouvé, mais après de luttes, nombreux combats, et précisément les combats aussi menés par Jean-Luc Marion, c'est-à-dire que l'insistance qu'il y a désormais sur cet aspect, enfin sur certains aspects de la pensée de Thomas, vient justement aussi de toute la critique qu'on peut faire de toute une scolastique, soit la scolastique italienne, soit le néo-thomisme.
Mais vous prenez simplement Suarez, vous voyez déjà que Suarez, c'est quasiment les positions de Descartes. Hein. C'est-à-dire, l'idée, c'est une représentation mentale. Laisser objectiver, c'est une idée, c'est plus laisser de la chose, etc. etc. Donc, Descartes tire les conclusions d'un processus qui commence avec Scott, au moins, et qui va et qui est déjà, mais déjà chez saint Thomas, la théorie des idées, par exemple, chez saint Thomas, déjà en Dieu, les idées sont, je dirais pas une représentation des choses, mais presque. Il faut faire très attention, c'est un très long processus. Descartes tire les conclusions parce qu'il a l'instrument méthodologique et métamathématique pour faire passer le processus à son terme. Alors, en ce sens, oui, mais il n'est pas à l'origine, le cher homme.
Voilà, on va s'arrêter ici. Donc demain, on a encore trois séances. Je vous annonce un peu sur quoi. Le phénomène érotique, bien sûr. Le matin, quand vous serez frais, à jeun, oui. Vendredi de carême, attention, nous parlerons de phénomène érotique. En se serrant la ceinture. Et donc, deuxième thème qu'on abordera, ça sera, on va parler du sport, parce qu'un match est un phénomène saturé. C'est ce qu'on essaiera de voir. Et puis, troisième point, donc j'ai appelé ça la question du déchet, enfin, la crise écologique comme crise métaphysique, enfin, comme crise de la métaphysique. Donc, comme on a beaucoup parlé cette année d'écologie intégrale, etc., je voulais qu'on aille plus loin, justement, et monter aux racines métaphysiques, en fait, de cette crise-là, parce que Jean-Luc a une pensée très profonde de la question du déchet, par exemple. Alors, on essaiera de retrouver ça. Voilà. Merci.